qui aiguillonne l'intelligence humaine et qui l'oblige à réfléchir sur un problème qui la dépasse complètement. Et je dirais, en parallèle avec l'interrogation philosophique, je vous disais que l'interrogation philosophique sur la création est au fond d'essayer de comprendre quel est le lien entre l'être premier, entre ce qui dépasse l'homme, si quelque chose dépasse l'homme, et ce qu'est l'homme. C'est important de voir que dans un cas comme dans un autre, c'est un problème frontière, c'est un problème limite. Et je me disais, au fond, faut pas avoir l'impression qu'en philosophie, c'est un problème simple, la création, que c'est un problème parmi d'autres. Je crois que c'est important, dans la recherche philosophique, de distinguer la recherche élémentaire sur l'expérience humaine, ce qu'on appelle la philosophie pratique, c'est-à-dire réfléchir sur le travail, réfléchir sur la communauté, réfléchir sur la découverte de l'autre et sur l'amour personnel. Et puis, la philosophie, je dirais, à sa limite. La philosophie, quand elle débouche sur la sagesse. Et c'est important, je crois, de voir, on y reviendra tout à l'heure, que la question philosophique de la création, elle est une question limite, comme la question philosophique sur Dieu. Donc c'est pas du tout par ça qu'on commence, c'est même pas ça qui fait le corpus, enfin qui fait le centre de la recherche philosophique. C'est les questions qu'on commence à se poser quand on arrive aux limites de la connaissance humaine. Et donc c'est important de voir que l'intelligence est au fond à la limite de ses capacités et qu'elle doit réussir à discerner complètement au-delà du visible. Hein, le problème de Dieu et le problème de la création pour ça sont typiques. Et donc on le reverra en théologie, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qu'il s'agit de concevoir dans sa tête. Ça ne se conçoit pas, la création, pas plus que Dieu. Ça s'approche, mais ça ne se conçoit pas. Et on verra que c'est une des difficultés majeures du problème de la philosophie par rapport à Dieu et par rapport à la création. Et en même temps, c'est une excellente pédagogie à la théologie. Vous voyez, ce qu'on essaye de faire là, c'est précisément pas de chercher à concevoir ce que l'Église nous enseigne, ni à concevoir ce qu'il faut savoir. Pourquoi ? Parce que dès qu'il s'agit de Dieu, on ne peut pas concevoir. Mais le travail de la théologie, c'est de m'approcher d'une réalité. Ça ne consiste pas à me faire une idée conforme à la réalité. Je n'aurai jamais d'idée conforme à Dieu. Et je n'aurai jamais d'idée conforme à la création. Et il y a déjà là, je dirais, une conversion de l'intelligence, qui est au fond d'apprendre à me servir de mon intelligence pour approcher une réalité. Humainement, c'est-à-dire l'approcher positivement, en essayant d'en avoir l'évidence, d'en acquérir l'évidence, c'est-à-dire de la voir de manière telle qu'elle est, et moins telle que je me l'imagine. Et puis dans le cas de la foi, d'approcher une réalité qui me dépasse infiniment, une réalité dont je vis, puisque je la reçois dans la foi, et donc d'essayer de balbutier ce que je vis. Ça, c'est la démarche théologique. Et de le balbutier le moins mal possible, le plus intelligemment possible. D'abord pour éviter de dire des bêtises, et puis en même temps, précisément pour pouvoir discerner ce qui dans ma foi relève de l'imagination et ce qui relève d'une véritable approche du mystère. Ça n'a aucun intérêt pour moi d'approcher l'idée que je me fais de Dieu. Je n'ai pas besoin de l'approcher d'ailleurs parce qu'elle est en moi. Et donc la difficulté, c'est précisément de perdre l'idée que j'ai de Dieu, non pas pour la remplacer par le vide, mais que, vous voyez, de la dépasser comme on saute sur un tremplin, c'est-à-dire pour m'approcher de ce qu'est Dieu. De toute façon, j'aurai toujours une idée, j'aurai toujours une image. Le tout, c'est de les dépasser. Et d'apprendre à les dépasser. Ça, c'est le travail théologique qui consiste à ça. il consiste pas à démolir l'image ou l'idole, si vous voulez, pour la démolir, il consiste à la dépasser. Et c'est pour ça que je vous disais, puisque au fond, ce qu'on essaye de faire là, c'est pas une réflexion philosophique en premier lieu, mais une réflexion à l'intérieur de la foi, c'est très important de voir que l'expérience dont je pars pour réfléchir sur la création, pour approcher le mystère de la création, d'ailleurs de la même manière que c'est la même expérience dont je pars pour réfléchir ou pour approcher le mystère de Dieu, c'est l'adoration. C'est-à-dire, c'est l'effort de mon cœur et de mon intelligence pour être devant Dieu. Que je vis uniquement par la charité, c'est-à-dire que je ne sais pas qui c'est Dieu dans mon intelligence humaine. Et dans la foi, je me laisse guider par l'amour de Dieu et par l'Esprit Saint en moi. Et c'est ça, croire. Je m'appuie sur sur le don de Dieu pour me tourner vers lui. Mais je dirais, j'essaye, vous voyez, à l'intérieur de cette relation d'amour, de me demander qui est Dieu. C'est partie de la politesse, quand quelqu'un me salue, que d'être attentif à ce qu'il est. Et d'essayer même d'être plus attentif à ce qu'il est qu'au problème que ça me pose. Vous voyez, donc à l'intérieur de l'adoration, je me demande qui il est et qui je suis devant lui pour pouvoir mieux adorer. Parce que je ne peux pas adorer de la même manière si je ne suis qu'une partie de lui, si je ne suis rien du tout et qu'une illusion d'être, ou si en fait c'est lui qui n'est rien et moi qui suis tout. Vous voyez, ce que je dis, c'est que c'est comme dans une relation personnelle. La qualité d'une relation, elle est déterminée par les personnes qui sont l'une en face de l'autre. Et plus on s'occupe de l'autre et moins on s'occupe de la relation, et mieux on se porte, et mieux on aime. Mais je dirais, la réflexion sur la création et sur Dieu, c'est pour ça que la réflexion sur la création, elle présuppose, on va le revoir, la réflexion sur Dieu. C'est en cherchant à discerner qui il est que je deviens capable de réfléchir sur la relation qu'il y a entre lui et moi. Ou si vous voulez dire que je suis une créature, ça veut rien dire si je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le créateur, qui est le créateur. Parce que sinon, je m'imagine la créature comme un petit chose et le créateur comme un grand chose. Vous voyez, imaginativement. Quand on dit on est une créature, à quoi vous pensez quand vous dites que vous êtes une créature? Demandez-vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que vous dites? Quelle est l'image qu'il y a derrière? Ou quelle est la réalité qui est pensée derrière ça? Ben vous verrez, souvent, c'est grosso modo, la créature, c'est une petite chose sur une grande terre, et le créateur, c'est un grand truc qui enveloppe la petite chose, en gros. Et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de le penser de manière précise. Et je vous disais, la deuxième question, donc à l'intérieur de cette adoration, c'est au fond non seulement quel est le regard de Dieu sur moi et qu'est-ce que je suis devant lui, mais en même temps qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que l'humanité pour Dieu. Alors dans un premier moment, on va avoir trois approches successives. À l'intérieur du regard de foi, la première, c'est une approche biblique. Vous voyez, c'est important de voir que l'acte dont je parle, c'est de l'acte de foi, dans l'adoration. Et l'adoration, parce que l'adoration, c'est l'aspect personnel de mon acte de foi. Ce n'est pas un acte de foi qui porte sur, qui fait que je crois ce que me dit l'Église. L'adoration, elle est face à Dieu. Elle n'est pas face à ce que me dit l'Église. Ce que me dit l'Église, c'est pour adorer. Vous voyez ? L'Église ne me parle que pour me tourner vers Dieu, pas pour me tourner vers elle. Et donc là, je prends l'acte de foi au sens vital, au sens d'un acte de l'intelligence et de la volonté. Et pour essayer de discerner autant que j'en suis capable celui que je reçois dans cet acte de foi, Mais Dieu qui est Jésus. Et qui est la lumière de Dieu sur le Christ et sur l'homme. Pour tenter de le discerner, de quoi je ne peux me servir que de la parole de Dieu. Parce que le propre de la foi, c'est qu'en elle-même, elle est obscure. J'y vois rien. Je crois, mais je vois rien. Et pour essayer de mieux approcher celui en qui je crois et que je ne vois pas, je me sers de la parole de Dieu. Ce qu'on va faire dans un premier temps. Et puis cette parole de Dieu, elle réveille mon intelligence, parce qu'elle est très intelligente, la parole de Dieu. Et elle est faite pour s'adresser au cœur et à l'intelligence. Et réveillant mon intelligence, elle la provoque, elle l'oblige à réfléchir. Et ça, c'est à ce moment-là, on aboutit à l'élaboration théologique. Où j'essaye d'entrer dans l'intelligence de ce que Dieu me dit dans sa parole. Oui, j'écoute intelligemment, si vous voulez. Il y a deux manières d'écouter. Ou bien on écoute en recueillant les informations de celui qui nous parle et sans chercher à comprendre ce qu'il dit. Donc on est capable de répéter ce qu'il nous a dit. C'est déjà pas mal. Parce que ça permet de conserver la présence de l'autre en se répétant ce qu'il nous a dit. Même si on n'a pas compris. Ça, c'est la première manière de lire la parole de Dieu. Et puis, cette première manière de lire la parole de Dieu, c'est-à-dire en la gardant sans la comprendre. Qu'il faut commencer par faire. Il doit aboutir sur une seconde manière de lire la parole de Dieu qui est complémentaire, qui est d'essayer d'en avoir l'intelligence. Et de voir que Dieu s'est fatigué à me parler pendant toute la Bible, que c'est fait pour que j'essaie de comprendre. D'accord ? Et puis, on le reverra dans cette approche théologique. On reviendra après ça, dans la lumière de la théologie, sur l'Écriture. Alors l'approche biblique, elle est d'une certaine manière la plus facile, parce qu'il s'agit d'écouter ce que Dieu me dit dans sa parole. En mettant un minimum d'ordre. Et donc d'écouter ce que Dieu me dit sur la création. Alors la première chose, c'est clair, hein, c'est la Genèse. Je ne vais pas vous le relire, mais c'est les deux premiers chapitres de la Genèse. Qui sont très différents. Vous savez, il y a un premier récit, qui est le récit le plus récent, avec les sept jours. Qui me révèle comment, et c'est ce que tout l'Ancien Testament répétera, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et dans le langage biblique, le ciel et la terre, c'est pas l'oxygène et les minéraux. Oui, c'est symbolique. La terre, c'est le monde de lieu, c'est le monde matériel, visible. Et le ciel, c'est le monde spirituel. Ça n'exclut pas la signification matérielle, hein, mais c'est pas simplement une signification matérielle. Le ciel, c'est ce qui est le plus proche du divin, c'est la dimension spirituelle. Il faut savoir qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, cette création, elle implique un ordre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit. Alors, je ne veux pas tout vous lire, mais quand on travaille jour après jour, on voit qu'il y a un ordre qui est un ordre de l'élémentaire au complexe. On commence par la lumière et on finit par l'homme et la femme. En passant par les plantes, en passant par le discernement des eaux, en passant par les animaux, en passant par les luminaires. Et donc la création implique un ordre, et un ordre qui est un ordre de bonté. À chaque fois, Dieu vit que cela était bon. Puis même quand je prends simplement la première phrase, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, me montre bien qu'il y a une initiative de Dieu. Il n'est pas dit, au commencement, le ciel et la terre étaient auprès de Dieu. Mais quand vous prenez le parallèle avec le prologue de Saint Jean, ce qui montre bien que le ciel et la terre, on reviendra dessus, commencent d'exister à partir d'une initiative de Dieu. Dieu fait exister le ciel et la terre. Ce qui sous-entend qu'ils n'existaient pas. Ensuite, cette création et cet ordre de sagesse dans la création trouvent sa perfection et son sommet dans deux moments différents. D'abord dans la création de l'homme et de la femme. Et donc l'homme et la femme sont au cœur ou au sommet de la création. Et donc la création, elle est pour l'homme et la femme. Et en même temps, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que la création, elle s'achève ultimement en Dieu, puisque le septième jour, Dieu se repose. Dieu ne sait se reposer qu'en lui-même. Et donc la création, elle s'achève dans le repos de Dieu. Elle s'achève dans le retour vers Dieu. Donc la création, elle est pour l'homme et la femme, mais elle est pour Dieu. Le théologien après précisera que l'homme et la femme sont voulus pour la personne humaine est voulue pour elle-même, mais tout en étant voulue pour elle-même, elle est pour Dieu. Alors c'est saint Augustin et qui reprend d'ailleurs un texte, je crois, de la sagesse d'un livre Sapientio, qui dit que Dieu fait tout avec ordre, poids et mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement il y a cet ordre du parfait à l'imparfait, de l'imparfait au parfait, du simple au complexe, mais il y a aussi un poids d'amour. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne sont pas simplement au cœur de la création comme ce qu'il y a de plus parfait, mais comme ce qui est le plus aimé de Dieu. Parce qu'il y a une coïncidence entre l'ordre de perfection et l'ordre de l'amour. Dans le texte de l'Écriture, ce qui ne m'est pas parlé des anges. Et puis, et c'est très important, la Genèse et ce récit de la Genèse, il est au commencement de la parole de Dieu. Et donc la création, c'est pas simplement un événement matériel. Oui, c'est pas, il y a quelque chose qui y avait rien et puis tout d'un coup il y a quelque chose. C'est pas l'étincelle primitive, si vous voulez, la création. La création, c'est le commencement du dessein de Dieu. Ça veut dire que la création, telle qu'elle m'est montrée dans la Genèse, est inséparable de tout ce qu'on appelle l'économie divine, c'est-à-dire le dessein de Dieu. C'est ce que je vous disais hier, la Genèse me renvoie à l'Apocalypse. L'alpha et l'oméga se tiennent. Et on verra que c'est explicitement présent dans l'Apocalypse. La Genèse est très présente dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est la recréation. Alors, quand on prend le second récit, donc à partir du verset 4 du chapitre 2, on a un regard complémentaire du premier. Ce regard complémentaire, c'est, et qui est le récit le plus ancien, porte sur d'abord la familiarité entre Dieu et la créature. La créature n'est pas jetée par Dieu dans l'univers. C'est le geste du potier, puis le geste du chirurgien. Le fait que Dieu modèle l'homme avec de la glaise, puis il ouvre le côté d'Adam pour en prendre la côte d'Adam et pour la bâtir, dit le terme grec, le terme hébreu, en femme. Il dirait la symbolique de la main, si vous voulez, de l'artisan, me manifeste la proximité aimante de Dieu. et me montre d'une manière différente comment est-ce que non seulement l'homme et la femme sont au sommet de la création, mais l'univers leur est confié comme un jardin. Alors, on n'a pas le temps, il faudrait le travailler hein, sur toute la symbolique de la Genèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création est l'écrin dans lequel l'homme et la femme sont chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création n'est pas tragique, voilà. La création n'est pas quelque chose de tragique. Alors que dans de très très nombreux mythes, la création est tragique. La création n'est pas d'abord une séparation de Dieu. Elle est une différenciation. Dieu crée autre que lui. Mais il le crée dans l'amour et il le crée pour l'amour. Et en même temps, c'est ce que manifeste très bien le second récit, je dirais alors pour le coup de manière négative, c'est qu'il les crée libres. Parce que l'usage que Dieu, que l'homme et la femme font de leur liberté, il est visible. Il est d'autant plus visible qu'ils disent non. C'est pour ça qu'après ça, ça nous est resté. On a l'impression qu'on est libre que quand on dit non. Plus exactement, l'évidence de notre liberté, dans un premier temps, elle est d'autant plus grande qu'on a l'impression qu'on dit non. On a l'impression que si on dit oui à une dépendance positive, on ne s'est pas libre. Parce qu'effectivement, on ne fait que céder à quelque chose qui préexiste. Et que c'est une vieille nostalgie de vouloir se définir par sa liberté. Je dis ça parce que ce qui est très beau dans ce premier récit, c'est comment Dieu librement crée une créature libre et qui court le risque que cette créature refuse, et se refuse elle-même. Alors il y a tout un nombre de textes dans l'Ancien Testament qui reprennent ce deuxième récit et qui montrent comment l'homme est modelé par les mains de Dieu, où toutes les fibres dans les psaumes, où toutes les fibres de son être, il a été tissé par Dieu dans le sein de sa mère. Et je crois que c'est très important cette image parce que ça montre bien comment, je dirais, la gratuité de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, n'est pas séparable de la création. Vous voyez, Dieu n'a pas fait l'homme et puis tout d'un coup il a laissé se casser la figure puis il est venu l'aider. Vous voyez, c'est un peu le schème qu'on risque d'avoir. Non, l'amour de Dieu pour sa créature est déjà démesuré. Il dépasse. Vous voyez, je dirais que cette symbolique de Dieu qui prend le temps de me tisser dans le sein de ma mère est bien le signe de ça. Il a autre chose à faire. Enfin, vous voyez, je veux dire, qu'il prenne le temps de on le reverra, de mettre sa toute puissance au service de ce tissage, enfin, vous voyez, de cette création jusque dans le détail de ce que je suis, me manifeste, je dirais, l'intérêt, entre guillemets, anormal de Dieu pour sa créature, que sont l'homme et la femme. Et en même temps, ce que me manifeste encore ce livre 2, ce chapitre 2, c'est que Dieu ne crée pas le mal. Mais ce qu'il crée peut produire le mal. Parce que le nom de l'homme et de la femme, c'est un mal. Alors vous me direz, il y a le serpent. Les serpents, comme ça, c'est pas un mal, c'est pas mauvais les serpents. C'est mauvais si on se fait piquer, mais en soi, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais dans le serpent, c'est que c'est pas que c'est un serpent. C'est la manière dont il parle et dont il agit. Dans ce qu'il est, le serpent, il n'est pas plus mauvais que les araignées ou que les éléphants. C'est son rapport à l'homme, c'est dans son rapport à l'homme qu'il est dangereux. Mais comme créature, il n'est pas plus mauvais que les autres. Ensuite, ce qu'on voit apparaître progressivement, c'est comment cette création, et ça c'est très très beau ce qu'on découvre progressivement, c'est que l'homme et la femme, alors on le voit déjà parce qu'ils ne sont pas seuls puisqu'il y a le serpent, mais on voit dans le reste de l'écriture qu'il y a un monde, enfin pas un monde, c'est pas juste de dire un monde, mais il y a une présence personnelle autre que l'homme, que la personne humaine. Ce qu'on appelle l'ange, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, apparaît autour de l'homme et de la femme. C'est très impressionnant de voir ça. Et apparaît presque à leur service, tout en apparaissant supérieur à eux. Et donc la création, elle ne porte pas que sur l'univers matériel et l'homme et la femme. Elle porte aussi sur un monde invisible. C'est le credo. En fait, encore une fois, il ne faut pas parler de monde, parce que le monde, c'est une image terrestre. Ça, c'est la première strate, si vous voulez. Encore une fois, c'est là qu'on voit comment, tout en utilisant un langage qui est proche de celui des traditions religieuses, qui est proche du langage symbolique et mythique, il y a déjà une précision, une justesse, on le reverra, la théologie viendra le vérifier, hein, du regard de la révélation sur la création qui est très impressionnant. Je veux dire, le plus impressionnant, c'est pas que ça soit mythique ou que ça soit symbolique. Le plus impressionnant, c'est que tout en étant symbolique, ça ait cette précision de vérité. Ensuite, il y a un second stade, si vous voulez, ou un second degré de profondeur dans le regard que nous donne la révélation, c'est les livres de la sagesse. Oui, je dirais ce premier récit de la Genèse et des psaumes, c'est au fond la paternité créatrice de Dieu. La paternité aimante de Dieu, qui est le plus manifesté. Et puis il y a une deuxième strate qui sont les livres de sagesse, les livres sapientiaux, qui me montrent comment l'œuvre de la création, c'est l'œuvre de la sagesse. La sagesse, elle est l'artisante de Dieu. C'est par la sagesse que Dieu a créé. Alors c'est déjà beaucoup plus poussé comme réflexion, parce que c'est d'essayer de comprendre comment entre Dieu qui est simple et l'univers et la création qui est complexe, ce qui fait l'unité entre les deux, c'est l'ordre de sagesse. Et la sagesse est personnifiée dans le livre des Proverbes, dans le livre de la sagesse, comme c'est une personnification de l'action créatrice de Dieu, qui est à la fois comparée au jeu, comparée à la lumière, comparée à l'esprit. Vous voyez, les livres de sagesse essayent de se servir d'analogies humaines pour comprendre toutes les dimensions de l'acte créateur de Dieu. Il y a un grand passage, mais je ne l'ai pas noté là. Où il y a une grande liste de toutes les qualités de la sagesse. Et qui, au fond, est une manière de contempler toutes les qualités de l'acte créateur de Dieu. Voilà. En elle, en effet, est un esprit intelligent, saint, S-I-N-T, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les plus purs, les plus subtils, car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile, elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. C'est Sagesse 7:22. Si vous voulez, la sagesse, elle est comme la contemplation créatrice de Dieu, qui doit devenir l'épouse du sage. Et donc on est, d'une certaine manière, si vous voulez, à un degré théologique beaucoup plus poussé. Ça ne supprime pas du tout ce premier regard de la Genèse, qui est un regard où la dimension de l'amour est plus soulignée. Alors que là, c'est la contemplation qui est plus soulignée. Alors, c'est pas d'abord logique hein, comme énumération. C'est poétique. Donc je veux dire, c'est pas, il y en a qui se recoupent. Hein. C'est intéressant d'ailleurs, parce que le livre de la Sagesse, il est écrit en grec. Et du coup, il a une précision, enfin, il y a un usage de la langue qui est différent de la langue hébraïque. La langue hébraïque, à cause de sa construction par racine, est beaucoup plus apte à transmettre l'affectivité et l'amour. Elle est beaucoup plus concrète, si vous voulez, c'est un peu comme les langues orientales. Alors que le grec est une langue plus précise, une langue qui est plus adéquate à l'intelligence. Et puis ce qu'on voit progressivement dans l'Ancien Testament apparaître, c'est le lien entre, et on va y revenir, entre la création et le salut. L'amour de Dieu présent dans sa création dure et se manifestera dans le fait qu'il vient sauver les hommes. Et puis il y a une troisième manière de regarder la création, qui est de le regarder dans le cœur de l'homme. L'Écriture nous révèle l'attitude de l'homme devant Dieu, de l'homme qui adore. Et donc on lit en reflet dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme, ce qu'est Dieu pour lui. Ça, c'est très beau. Ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la peur. C'est pas du tout ça, la crainte de Dieu. Quand on regarde de près la crainte de Dieu, dans l'Écriture, on s'aperçoit que la crainte de Dieu, ça implique à la fois une proximité absolue de Dieu et en même temps une certaine distance et en même temps la transcendance de Dieu. Et ce qui est très impressionnant quand on regarde ce que c'est que la crainte de Dieu, hein, qui, d'après les psaumes, d'après les livres de sagesse, est le commencement de la sagesse. C'est précisément la conscience aimante à la fois de la transcendance absolue de Dieu et de sa proximité absolue. Oui, c'est très étonnant cette phénoménologie de l'adoration, qui est de comprendre comment devant Dieu je ne peux pas me considérer comme en dehors de lui. Ça n'a pas de sens, parce que nul n'est plus présent dans l'amour à moi-même que Dieu, et en même temps je ne peux pas le récupérer, il ne fait pas partie de moi, je ne peux pas lui mettre la main dessus. Ça, c'est le propre de l'idole, parce qu'il est tout autre. Et vous voyez, c'est très beau dans la crainte de Dieu, c'est de voir cette espèce d'attitude intérieure qui n'est pas du tout dialectique, mais qui est simultanément celle de la conscience aiguë du fait que Dieu me dépasse infiniment, et qu'en même temps, il est tout immédiatement proche à moi. C'est ça l'adoration. J'adore pas quelqu'un d'extérieur à moi. Et en même temps, je m'adore pas moi-même. C'est pour ça que la crainte de Dieu, c'est la pédagogie à l'adoration. Qui risque toujours de se transformer en peur de Dieu. Ce qui n'est pas commode. Parce que la première blessure de l'homme, c'est d'avoir peur de Dieu. Hein, depuis la Genèse, où Dieu lui dit « Où es-tu ?» et où il dit « Je me suis caché parce que je suis nu. » Et où on voit bien que la première conséquence de la faute, c'est la peur. Donc la crainte de Dieu, c'est quelque chose de... Enfin, vous voyez, c'est un équilibre délicat à trouver dans la... C'est la juste relation à Dieu, la crainte de Dieu. C'est le pécheur qui se sait sauver. et qu'il n'a plus peur d'être pécheur parce qu'il est sauvé. Et puis ensuite, on voit gérer toutes les modulations de la crainte de Dieu à travers la louange, à travers l'action de grâce, à travers tous les psaumes. Qui est toujours dans ce juste regard sur la proximité aimante de Dieu comme créateur, et puis son altérité, le fait qu'il est tout autre. Ensuite, dans le Nouveau Testament, qui assume complètement ce donné de l'Ancien Testament, là oui, il y a encore quelque chose, c'est le livre de sagesse, c'est le livre des Maccabées, où il est dit que l'homme est fait à partir de rien. L'expression ex nihilo, sur laquelle va beaucoup réfléchir le théologien, elle est donnée dans l'Écriture. C'est le deuxième livre des Maccabées, 7:28. C'est un des grands textes aussi sur la création. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui en eux, tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a fait de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. C'est le moment où il va mourir. Hein. C'est le moment où c'est la mère admirable là, qui a ses 7 enfants qui sont tous torturés par Antiochus Épiphane, qui meurent tous les uns après les autres. Et là, c'est au moment où il va mourir. Pour lui montrer la dignité de l'homme et l'amour que Dieu a pour l'homme, et lui montre comment est-ce qu'il est fait de rien. Donc c'est pas du tout négatif. Elle continue, ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. Mais c'est très beau parce que ça commence par le fait qu'elle lui dit, mon fils, aie pitié de moi qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es, et pourvu à ton entretien. Vous voyez comment est-ce que la maternité, il y a un lien entre la maternité et la création. Vous voyez, il y a un enchaînement symbolique qui est très très beau. Alors pour le Nouveau Testament, je vous avais lu hier le texte de saint Paul à Athènes, donc en acte, dans les Actes des Apôtres 17-28, qui au fond vient accomplir, enfin qui est encore plus précis, je dirais presque plus philosophique que ce qui est donné dans les livres de sagesse. Et puis, ce qui est capital, c'est que le Christ est au cœur de la création. Tout est créé par lui et pour lui. Alors c'est aussi bien chez saint Paul, dans l'épître aux Hébreux et dans saint Jean. Il est le Seigneur par qui tout existe et par qui nous sommes. 1 Épître aux Corinthiens 8:6. Il est la sagesse de Dieu. Il est le principe des œuvres de Dieu. Dans l'Apocalypse 3:14. Et puis il est, pour reprendre le thème de la sagesse, l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute créature. Et donc il faudra y revenir, si vous voulez, il y a qui est le Christ par rapport au Créateur. Ça fait partie des questions de ma foi. Et le Christ est montré comme inséparable du Créateur. Donc est-ce que le Christ est une créature, si vous voulez, c'est une question qui est sous-jacente. Qui est Jésus? C'est quand même important, si c'est lui que j'aime et si je suis chrétien, de savoir s'il est une créature. S'il n'est pas une créature, s'il est créé ou s'il est incréé. S'il est les deux. Ensuite, et c'est la dernière chose, et ça c'est propre au Nouveau Testament, à cause du Christ, on reviendra dessus à la fin, la création est vue dans la lumière de la recréation. C'est pour ça que c'est capital la théologie de la création, parce que je ne peux rien comprendre au mystère de la grâce, au mystère de la rédemption. C'est-à-dire le mystère de la recréation, si je ne comprends pas la création. Alors là, je vous renvoie à l'Apocalypse qui parle d'une créature, d'une création nouvelle, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, d'une Jérusalem nouvelle, du Christ comme le nouvel Adam. Ça, c'est dans les Romains. Et donc, le regard, vous voyez, le regard que je vais avoir sur la création, va déterminer le regard que j'ai sur la recréation. Et donc, autant d'erreurs sur la théologie de la création, autant d'erreurs sur le mystère de la rédemption. Et puis, on verra que la théologie de la création, elle est gardienne de la vérité de mon lien avec Dieu, de la vérité de ce qu'est Dieu. Et donc, je dirais, si je l'élimine ou si je me contente de la penser imaginativement, tout le reste de ma foi demeure dans l'imagination. Oui, je dirais, on le reverra, c'est la création qui m'oblige à découvrir, à passer dans mon intelligence du côté de Dieu. À passer de la créature au créateur. Et je dirais, même si je ne la comprends pas, elle m'oblige à le faire, dans la foi. Et on verra que bon, c'est pas simple à aborder le mystère même de la création. Ce qu'est la création. Ou ce qu'est Dieu comme créateur. Et du coup, ce qu'est la créature. Mais au moins de savoir que c'est là qu'il faut que mon adoration, si vous voulez, elle ne quitte pas ce lieu, c'est ça qui est capital. Voilà, lorsqu'on regardera cet après-midi, on essaiera lentement, en même temps vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, d'essayer de voir comment est-ce que l'approche théologique m'aide par rapport à la parole de Dieu à mettre un ordre qui m'aide à entrer. C'est ça le travail de la théologie, c'est de respecter ma manière de comprendre pour me faire entrer dans le regard de Dieu et pour me permettre de recevoir ce que Dieu me dit tel que lui, je dirais, le comprend, au-delà des images que ça me donne. Alors on commencera peut-être, je vous rappelle, pour qu'on saisisse mieux, comment est-ce qu'en même temps la théologie va m'aider à recevoir ce que l'Église m'enseigne. L'Église, elle me dit ce qu'il faut que je croie. Mais elle ne me dit pas comment je dois coopérer pour y croire. Quand on récite le credo, de temps en temps, il faut s'arrêter en disant « Mais qu'est-ce que je comprends de ce que je dis ?» Or, si je le dis, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Sinon, il va y autant que je me taise. Ça me fait comprendre la différence entre la catéchèse qui me dit ce que je dois croire et l'éveil théologique qui est d'essayer précisément d'entrer dans ce que je dois croire. Et il est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, ce qu'on récite tous les dimanches.
bien l'homme est capable de la station inverse, j'allais dire, il est capable de la prostration volontaire, qui est, vous voyez, qui est carrément l'inverse de la station debout. Vous trouvez ça, à ma connaissance, chez aucun animal, si vous regardez ça de façon qualitative, par
Alors peut-être pour distinguer ce travail théologique qu'on va essayer de faire et au fond ce qui est objet de foi. Cet objet de foi, c'est ce que l'Église m'enseigne. Et l'Église, elle enseigne de double manière. Ou bien en soulignant quelque chose qui est déjà présent dans l'Écriture, ou bien en répondant à une objection. Souvent les objections, ça s'est appelé des hérésies. Si vous voulez, face à une bêtise, on est obligé de devenir plus intelligent. Et très souvent, l'enseignement de l'Église, il a cette double manière. Ou bien on souligne quelque chose de déjà présent dans l'Écriture, ou bien on répond à une erreur.
Ensuite, il faut parler peut-être aussi de la peau. Parce que la peau est... Alors comme telle, si vous voulez, elle ne présente pas de...
Ensuite, il crée dans l'amour. Que toute réalité créée est créée par Dieu. Il crée tout l'univers. Donc il n'y a pas un univers créé par Dieu qui serait bon et un univers formé par le démon qui serait le mal, enfin contre le manichéisme. Le ex nihilo, on va le revoir, c'était contre au fond, imaginez que Dieu crée à partir d'une matière préexistante. Et puis ensuite, il y a le corollaire qui crée immédiatement l'âme humaine. On le reverra aussi, enfin, la procréation, il est engagé dans la question de la création. Puis que Dieu crée Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la Trinité tout entière, les créatrices. Et en même temps que il y a une autre expression qui est de dire que le Père crée par le Fils dans l'Esprit. Donc ça, c'est ce que me dit l'Église. Ensuite, elle me laisse le travail qui est de le comprendre. Vous voyez, le travail de l'Église, c'est de m'empêcher de dire faux. Mais c'est pas de remplacer mon intelligence de croyant. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la tâche théologique, même si elle n'a pas chez tout le monde à être très élaborée, elle est un devoir de foi. À l'intérieur de la foi, il y a une exigence interne. Exactement comme il y a une exigence interne d'intelligence à l'intérieur de l'amour, il y a une exigence interne d'approche théologique, pas à coup de nécessairement de bouquins, vous voyez, mais d'interrogation sur le mystère à l'intérieur de la foi. C'est ça l'approche théologique. Vous voyez, on voit ça, ou bien quand un grand frère répond à sa petite sœur qui lui pose des questions sur l'Eucharistie quand elle se prépare à sa première communion. Ou bien il fait du catéchisme un peu bête, c'est-à-dire qu'il lui répète ce qu'on lui a appris. Et du coup, la petite sœur s'énerve d'ailleurs souvent parce qu'elle voit bien qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Ou bien il essaye de répondre à ses questions en se servant de ce qu'il a appris. Et ce qui est, de plus exactement de ce qu'il a compris. Vous voyez, donc en essayant. Par exemple, un enfant vous demande, mais quand il se prépare à sa première. Est-ce que Jésus, il est dans le tabernacle? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il est dedans l'hostie? Alors, est-ce que quand je mange l'hostie, je mange Jésus? C'est une bonne question d'enfant, ça. Alors, ou bien ils vont chercher un catéchisme, on lui répond ce qu'il y a dans le catéchisme, à ce moment-là, il n'est pas satisfait. Ou bien on essaye de lui expliquer ce qu'on a compris, si on a compris, mais au moins de respecter son approche. Parce que s'il se pose cette question, c'est pas simplement bête. Enfin, vous voyez, c'est pas une question pour savoir le nom, comme quand on dit comment ça s'appelle une locomotive. C'est parce que, guidé par sa foi et sa charité, il y a quelque chose qui l'interroge. Et il veut savoir quel est le lien qu'il a avec le Christ. Eh bien, ou bien je me contente de lui dire ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut dire, ou bien j'essaye moi-même de lui exprimer ce qu'est le mystère. En me servant d'une image ou en me servant d'une analogie. Guidé par ce que me dit l'Église. Notamment guidé par ce que c'est que la présence. Et quand l'Église me parle de présence réelle, ça devrait éveiller mon intelligence. Et effectivement, l'enfant, la seule manière de lui faire comprendre le mystère de l'Eucharistie, ce sera de lui parler de la présence. Parce que la question n'est pas de savoir s'il est dedans ou dehors. C'est des catégories de boîtes. Et le Christ ne rentre pas dans les catégories de boîtes, surtout dans la transsubstantiation et dans la présence réelle. L'Église ne dit pas il est dedans le tabernacle. Elle me dit qu'il est présent. Et l'enfant comprend très bien, parce que ça l'intéresse beaucoup plus la présence que les boîtes. Après ça, il est beaucoup plus accessible à la présence qu'à la notion de dehors et de dedans. Vous voyez, je veux simplement dire que ça réclamera de moi que l'intelligence que je mets dans mon acte de foi par rapport à l'Eucharistie est une arête, qui est précisément le fait d'avoir découvert à cause de la charité que l'axe de l'Eucharistie, c'est la présence. C'est pas dedans ou dehors. La question n'est pas de savoir s'il est dedans. La question est de savoir s'il est réellement présent. Vous voyez ? Alors, les mots de l'Église me guident. Mais encore faut-il que je m'en serve pour appliquer mon intelligence au mystère. Et là, on va voir que c'est la même chose pour la création. Parce que, malgré tout, l'Église me dit que je suis créé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va prendre saint Thomas comme guide. On n'arrivera pas à sa hauteur, hein, mais c'est pas grave. On essaiera de le suivre au moins de loin et de voir comment l'ordre qu'il met dans sa réflexion est en fait une pédagogie merveilleuse pour l'intelligence. Il y a deux choses. D'abord, chez saint Thomas, on est dans un regard théologique, pas dans un regard philosophique. Et saint Thomas présuppose la théologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me mets à essayer de parler intelligemment du mystère de Jésus et de Dieu, ça présuppose que mon intelligence, elle est devenue intelligente quelque part. Et comme c'est pas dans la foi que je deviens intelligent, parce que j'y vois rien, c'est humainement que je deviens intelligent. Et le lieu où je deviens intelligent, c'est pas la foi. La foi, elle me réclame d'être intelligent, mais elle m'en donne pas les moyens. Elle me donne la soif de l'être. Mais la charité me donne la soif d'être intelligent. Et des fois, une soif immense, mais elle ne me donne pas les moyens. Ce qui n'a rien à voir au niveau de mon intelligence humaine. Et donc, elle me renvoie à mon intelligence humaine. La foi exige de moi qu'humainement, je devienne intelligent. Ce qui est lent. Notamment sur le problème de Dieu et sur le problème de la création. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est esquisser rapidement, hein, parce que je veux dire, on en a pour toute notre vie humaine, d'approcher humainement le problème d'un être qui existe au-delà de l'homme et le problème de la relation entre cet être qui existe au-delà de l'homme et l'homme lui-même. Alors je reviens pas sur cette enfin, il faudrait... sur cette découverte de Dieu, puisque vous avez dû en le voir un peu avec le frère Jean-Marie, comment est-ce que je pars de la personne humaine après l'avoir étudié dans ses activités pratiques, dans ses actes pratiques? Parce que les choses qui sont les moins confuses pour moi, c'est que je mange, c'est que je marche, c'est que je réfléchis, c'est que j'organise, et c'est que j'essaye d'aimer. Ça, vous voyez, je l'ai immédiatement sous la main. Alors c'est d'abord là-dessus que je réfléchis. Ensuite, je réfléchis sur l'anthropologie, c'est-à-dire au fond sur l'intériorité de l'homme, sur le lien entre l'intériorité et l'extériorité, sur le lien entre l'âme et le corps, sur la relation entre le corps humain et l'univers. Vous voyez, je suis déjà à un second degré. Je suis immédiatement dans l'expérience. Je réfléchis sur la constitution interne de la personne. Ce qu'on appelle la philosophie. Donc là, on est dans la philosophie pratique. Ce que normalement, tout bon père ou toute bonne mère de famille fait un peu. Quand il s'agit d'organiser une entreprise, on a besoin d'une intelligence pratique des choses. Si on ne comprend pas par quel bout il faut commencer pour aboutir à quoi, on ne fait rien. De la même manière que pour éduquer un enfant. Mais pour éduquer un enfant, ça ne suffit pas que je sache qu'il faut l'aimer, ni comment il faut l'aimer. Il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est constitué. Et que je ne peux pas éduquer un enfant de la même manière s'il est une âme qui plane au-dessus d'un corps, s'il est un corps tout court, ou s'il est, au fond, une illusion momentanée. Je pense au bouddhisme. Dans le bouddhisme, la personne n'existe pas, elle n'a pas de constitution propre. Elle n'est que l'accident momentané d'un certain nombre d'éléments. Donc c'est important, je veux dire, la vision que j'ai de la personne humaine va déterminer mon éducation, l'éducation que je donne, et puis mon activité, ma manière d'aimer. C'est pour ça que je pars d'abord de ce qui est le plus spontané chez moi, qui a la chance d'être le moins tordu. Quand vous faites cuire des œufs sur le plat, il y a des chances que vous ne soyez pas trop idéaliste. Par contre, quand on commence à vous demander quel est le lien entre l'âme et le corps, là c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc il faut commencer par le fait de faire cuire les œufs sur le plat et progressivement entrer dans, j'irai dans, non pas dans l'idée que je dois me faire de la personne, mais dans ce qu'elle est. Vous voyez, donc il faut que je quitte pas les pieds sur terre, mais il faut d'abord que je les ai sur terre, et après ça j'essaye de réfléchir tout en les gardant sur terre. Et puis au terme de cette réflexion, ou au cœur de cette réflexion plus contemplative, si vous voulez, plus gratuite, qui n'est pas immédiatement liée à l'aspect pratique, je réfléchis sur l'existence de la personne. Qui est une espèce de chose très bizarre, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, et en même temps, c'est ce que j'ai le plus de mal à rejoindre. Mais l'existence de la personne, c'est ce qui est en deçà de toutes les idées que j'ai d'elle, qui est en deçà de toute mon approche affective, qui est en deçà de tout mon vécu. Oui, c'est le seul, l'existence. C'est vraiment là. Quand je me lève le matin, il y a une évidence de l'existence du plancher sous mes pieds, sinon je me recouche. Et j'attends de me réveiller réellement. Non, mais vous riez. À ce moment-là, on en fait l'expérience. Mais souvent, 10 minutes après être réveillé, on est déjà reparti dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on le laisse à l'état d'inconscient, l'existence. C'est dommage. Le travail du philosophe, c'est de faire passer l'existence de l'état pas inconscient, mais si vous voulez préconscient, à l'état conscient, que je sois présent dans le réel de tout de suite. D'accord? Découvrir l'existence, c'est apprendre à être présent. Bêtement aux choses réelles, matérielles, et ensuite intelligemment par rapport aux personnes. Et je dirais, ça prend du temps, la mise en évidence de ce plancher de mon intelligence. C'est fondamentalement ce qui me sort de l'angoisse, en plus. C'est ce qui me sort de l'imaginaire, c'est ce qui me sort de l'angoisse. Ça suffit pas, mais c'est une condition préalable. Une fois que j'ai mis le doigt dessus, je peux pas la récupérer, l'existence. Je peux même pas la penser. Évidemment, parce qu'elle n'est pas là. Mais elle est là. Donc ça ne sert à rien que je la pense, j'arrive pas à la penser. Ce que je peux, c'est la rejoindre avec mon intelligence. Rejoignant l'existence, elle me pose des questions, l'existence. Parce que la personne humaine, elle existe à la fois d'une manière qui a une certaine simplicité, une certaine unité. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous n'avez pas instantanément l'impression d'être face à plusieurs phénomènes juxtaposés les uns avec les autres et inorganiques. Mais vous êtes face à une réalité qui a un minimum d'unité, pas simplement corporelle et matérielle, mais une certaine unité d'existence. Même s'il peut y avoir des dispersions affectives, enfin oui, une multiplicité intérieure. Il y a des gens très compliqués, mais fondamentalement, si on les trouve trop compliqués, c'est parce qu'il y a quelque chose qui demeure simple. Sinon, on s'habituerait. Et c'est cette complexité de l'existence de la personne, et je dirais son unité fondamentale, qui suscite une réflexion philosophique, qu'on appelle la philosophie première. La philosophie de l'être, qui ne consiste pas à penser l'être, mais qui consiste à le découvrir comme il est. À découvrir qu'est-ce que c'est qu'exister, qu'est-ce que c'est qu'être. Donc cette attention, si vous voulez, cette attention de plus en plus aiguë à l'existence du réel, elle aboutit à la découverte d'une certaine... D'abord de découvrir que l'existence est ce qu'il y a de plus fondamental. Il n'y a rien de plus fondamental en moi que d'exister. Et c'est d'essayer d'approcher à l'intérieur même de l'existence ce qu'il y a de plus fondamental. Ce qui demeure. Ce qui fait que malgré la diversité, malgré le temps, malgré l'âge, il y a un fondement commun dans une personne. Qui n'est pas simplement son chiffre biologique, mais qu'il y a quelque chose de commun dans la diversité des expériences que j'ai d'une personne, fondamentalement. Et donc il y a un premier travail qui consiste à mettre en évidence, à acquérir l'évidence de ce fondement. Et puis il y a un deuxième moment qui consiste à saisir ce qu'il y a de parfait, ce qu'il y a d'ultime dans l'existence. Dans l'être de la personne. Comprendre que l'être de la personne, il est non seulement quelque chose de fondamental, mais qu'il est quelque chose de parfait. Ce qui m'attire dans la personne, radicalement, c'est la perfection de son être. Je dirais ce qu'il y a de lumineux, enfin oui, qu'il y a de lumineux au plus profond de ce qui attire dans la personne, coïncide avec son existence. Et ça, j'essaie de le découvrir. C'est beaucoup plus difficile, ce qu'on appelle l'acte. Et je m'aperçois que simultanément, dans la personne, il y a quelque chose d'ultime et de parfait. Et en même temps, il y a une imperfection radicale. La personne, elle est simultanément... C'est ce qu'a très bien pigé Pascal. Quand il montre comment est-ce qu'à la fois, l'homme est un roseau, mais un roseau pensant. Comment est-ce que l'homme, à la fois, n'est... Non pas qu'il soit rien, mais il est en devenir... Et ses imperfections et ses limites, elles sont multiples. Et que chacune des limites de la personne me révèle qu'au fond, la personne n'est pas parfaitement accomplie. Il y a quelque chose en elle qui est déjà accompli, et il y a quelque chose en elle qui n'est pas encore accompli. Et je dirais, tout ce qu'il y a d'intéressant dans la vie humaine, c'est précisément que l'inaccompli s'accomplisse. Vous voyez, que je sois de plus en plus moi-même. Et que je le sois de manière de plus en plus profonde et de plus en plus plénière. Alors, c'est, au niveau de la philosophie première, cette prise de conscience, cette mise en évidence, à la fois de cette perfection dans l'être de la personne et de cette imperfection dans l'être de la personne, qui me désigne la présence de quelqu'un d'autre. Alors c'est clair que, vous voyez, il n'y a que quand j'en acquiers l'évidence que ça le devient. Enfin, c'est clair. Mais il y a... Ce que je veux dire, c'est que présentement, ce n'est pas de l'ordre de ma tête. Donc ce que je veux dire, c'est que je peux m'en faire un petit schéma imaginatif, ça ne me satisfait pas. Ce qu'a très bien compris Kant en disant que le problème de Dieu, ça, si ça se passe là, ça ne sert à rien. Autant aller faire autre chose. Ce n'est pas parce qu'il existe là-dedans qu'il existe réellement. Je peux me concevoir un concept de Dieu qui soit absolument magnifique, encore plus beau que les aurores boréales, mais ça ne veut pas dire que ça existe. Donc ce qui est clair, c'est que ça, c'est à découvrir pas là, mais dans le réel. Ça prend du temps pour s'ajuster au réel et le lire avec intelligence. C'est pour ça que la découverte d'un être premier, qui est acte pur, qui est précisément en lequel il n'y a pas cette limite, cette imperfection, cette potentialité, apparaît en creux dans ce que je découvre de l'être de la personne. Mais apparaît comme une évidence. Vous voyez, la découverte de l'existence d'un être premier, c'est pas la démonstration d'une hypothèse première. C'est le dévoilement de l'existence réelle de quelqu'un. Que je n'expérimente pas. Si j'avais l'expérience de Dieu, je serais transfiguré en chaleur et lumière. Mais je n'en ai pas l'expérience. Mais je découvre avec évidence son existence. Alors c'est en même temps très pauvre, hein. Et en même temps, étant donné l'importance que ça a pour la vie humaine, c'est capital. C'est Aristote qui souligne ça, qui souligne qu'effectivement les choses les plus profondes, c'est les plus difficiles auxquelles on a le plus de mal à y accéder parce que l'imagination est complètement frustrée. Et en même temps, c'est tellement déterminant que même si on ne fait qu'entrevoir, je dirais, l'intelligence percevant l'importance de plus que l'importance, c'est plus qu'une importance puisque c'est tout, de cette existence, y engage toutes ses forces. Alors cette découverte, elle se fait donc à la fois de manière négative, puisque je n'expérimente pas Dieu, alors que j'expérimente la table, et que je m'expérimente moi-même, et que j'expérimente l'autre. Et en même temps, elle peut devenir, et je dirais l'intelligence réclame qu'elle devienne, une évidence aussi forte que celle de la table. Sauf que je n'ai pas la sensation entre deux. Vous voyez, je dirais, là, l'intelligence est arc-boutée sur sa connaissance de l'être de la personne pour découvrir l'existence d'un être premier. Alors, que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu, c'est comme le mot âme. C'est un mot de tradition religieuse. Et le mot ne me donne pas d'idées. Vous pouvez vous répéter Dieu, ça ne vous donne pas des idées. Ça vous donne peut-être des images, mais ça ne vous donne pas d'idées. Vous voyez, ça crée pas d'idées, les mots. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, quand je le découvre, du côté de... dans la lumière de l'inaccomplissement de la personne, l'existence de cet être premier. Et je le découvre à ce moment-là comme la fin de l'homme, comme celui pour qui l'homme est. Vous voyez, Dieu n'est pas une condition sine qua non de compréhension de ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'attendre de découvrir l'être premier pour comprendre que j'ai deux yeux, une tête, deux mains, et que je suis fait pour marcher, pour planter des choux, pour aimer. Mais découvrant cet être premier, je me comprends pour lui. Dans mon être. Et le propre de l'adoration, c'est d'accepter librement que je suis pour lui. Vous voyez, je dirais, cette découverte, elle est accompagnée d'un acte d'amour, d'un acte de consentement au réel. Et dans cette lumière, j'essaye de comprendre, et ça c'est second, quelle est ma relation entre cet être premier et ma personne. Mais vous voyez, c'est second. Je dirais, ce qui polarise toute la recherche du philosophe et de l'intelligence humaine, c'est de le découvrir pour l'aimer. Ensuite, j'essaye de comprendre ma relation à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis dans la lumière de Dieu? C'est ça le problème de la création. Parce qu'une fois que j'ai découvert Dieu, comment vous dire, c'est comme la bougie qui découvre le soleil, quoi, il ne reste plus grand-chose. Je me dis, ben, qu'est-ce qui reste? Dans cette histoire-là, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis autre chose que son propre miroir? Enfin oui, effectivement, à ce moment-là, je me demande, est-ce que mon existence a encore de la consistance devant lui? Est-ce que ça a encore une réalité? Est-ce que je suis encore réel? Alors à ce moment-là, je refais cuire mes œufs et je vois que je suis toujours réel. Mais la difficulté, elle n'est pas de voir que je suis toujours réel, elle est d'essayer de rejoindre, vous voyez, à vraiment de ne pas opposer dialectiquement, parce que spontanément, dans beaucoup de traditions religieuses, on opposera. Quand on passait par exemple souvent à l'islam, la théologie islamique absolutise l'existence de Dieu. L'existence de la personne n'est rien. Je ne suis réellement rien. C'est quelque chose de très beau parce que ça manifeste la transcendance de Dieu. Le problème, c'est que ça supprime l'existence de l'homme. Et inversement, tout le mouvement, si vous voulez, toute la réaction de l'idéologie athée, c'est face à une pensée qui prétendait ne comprendre l'homme qu'à cause de Dieu, et qui disait, voilà, au fond, l'homme, il n'a de sens, et il n'est compréhensible que quand je découvre Dieu, et que parce que je pose Dieu, a dit, bah, pas du tout, en attendant, jusqu'à nouvel ordre, la seule chose que je sais, c'est que je suis là. Le reste, on verra plus tard. Mais c'est important de voir que c'est pas simple au niveau de ma lucidité humaine de faire coïncider le sens de l'absolu de l'être de Dieu et mon existence à moi. Et ça a des conséquences pratiques. Vous voyez, c'est que concrètement, si je me prends pour autre chose que ce que je suis, je raterai les tournants. C'est-à-dire que si je me prends pour, au fond, ou bien rien du tout, ou bien autosuffisant, ça aura des conséquences du côté éthique. Si je me pense extérieur à Dieu ou intérieur à Dieu, parce qu'il faut des catégories de boîtes. Si je me pense aimé de Dieu ou non aimé de Dieu. Donc si vous voulez, il y a une réflexion seconde qui est dans cette lumière-là, hein, que je ne peux avoir que si j'arrive là. Qui est d'essayer de comprendre au fond comment Dieu ne peut pas ne pas être. Parce que moi, je travaille négativement. Hein, parce que j'ai jamais contemplé la création que Dieu me fait. Je n'ai jamais contemplé Dieu me créant. Parce que je n'ai pas d'expérience. Donc la seule chose que je peux dire, c'est au fond, étant donné ce qu'il est, il ne peut pas être autrement que source de tout ce que je suis.
Mais je suis pas tout à fait d'accord quand vous dites
qu'il
n'a jamais contemplé Dieu me créant.
Ah bon? Je n'avais de la chance. Oui. Il nous crée chaque jour encore plus. Mais c'est ce qu'on... On va voir. On va voir s'il nous crée chaque jour. On va voir. Hein. Le problème, il va être que Dieu, il n'est pas dans le temps. Donc il ne me crée pas chaque jour. On va voir, c'est précisément sur ce problème-là que j'ai besoin, je dirais que mon intelligence, elle émigre un peu du côté de Dieu. Non mais vous allez voir, ça va pas. Voilà, et précisément l'effort là, il est pas, j'ai pas la vision de Dieu. Hein. Mais c'est d'essayer précisément, une fois que j'ai découvert son existence dans tout son absolu, ça veut dire que il est de manière absolue. Et donc, il est complètement au-delà du devenir. Il n'est pas en dehors, vous voyez, il n'y a plus de catégorie d'en dehors et d'en dedans. Il n'est pas loin ou proche, il n'y a plus de catégorie de loin et de proche. Il est. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui, non seulement est, mais devient, doit être regardé dans sa lumière. C'est ce qu'on va essayer de faire dans le regard théologique. Donc si vous voulez, la seule chose, c'est qu'en philosophie, donc j'aboutis jusque-là, on va voir que le regard théologique est un peu différent. Il est plus facile parce qu'on a la foi, pour se cramponner. Mais qui est au fond, j'affirme que Dieu est source de tout ce que je suis. Et quand je dis source, c'est une métaphore. C'est pour ça que je dirais en sens strict en philosophie, il est cause de tout mon être. Et c'est là que on va voir comment Saint Thomas pousse qu'on peut pas développer indéfiniment le regard philosophique, pousse cette précision pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il est source de ce que je suis, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est cause de mon être. Donc si vous voulez, ça c'est le regard philosophique, hein, qui part du plancher des vaches et qui essaye de découvrir l'existence de Dieu. Et qui quitte pas le plancher des vaches. La théologie, c'est l'inverse. Dans la théologie, je suis sur le plancher de Dieu. Je suis dans la foi. Et la foi, elle ne part pas de mon expérience. Vous voyez, elle ne part pas de mon expérience, la foi. La foi, elle est que j'accepte que mon intelligence meure à elle-même pour accueillir ce que Dieu me dit, que je ne comprends pas. Et je l'accueille avant de le comprendre. D'accord ? Donc la foi, elle s'appuie sur la lumière de Dieu. Et elle est, et c'est ça qui est étonnant, de vivre dans l'obscurité de cette lumière. D'entrer dans le regard de Dieu sans comprendre. et de me laisser guider par cette lumière sans en avoir l'évidence. C'est pour ça que je deviens capable de faire des choses que je suis incapable de faire humainement. Et donc la théologie, elle s'appuie sur la foi, la théologie. Donc je reçois ce que Dieu me dit et je me sers de ma petite intelligence pour y entrer plus intelligemment. Donc si vous voulez, en théologie, la création, c'est pas... Je me pose pas la question de savoir s'il y a une création. Ça m'est dit dans l'écriture, je le reçois. Et je sais que ça m'est dit dans l'écriture pour me préparer à le comprendre, en plus. C'est pour ça que j'ai absolument besoin de lire la parole de Dieu profondément et beaucoup. D'accord ? Vous voyez, je dirais, jusque dans la manière dont est formulée la parole de Dieu. C'est une pédagogie amoureuse et intelligente pour me préparer à comprendre, si, même pour me préparer à contempler dans l'éternité la création. Donc c'est important que la parole de Dieu, je ne la limite pas à un donné d'information théologique. Mais je dirais, les mots qui sont utilisés, les images qui sont utilisées, elles sont données par Dieu. Donc j'ai à rentrer dans la symbolique de Dieu, à rentrer dans les images que Dieu me donne. Et en même temps que j'y entre, mon intelligence pose des questions. Donc je ne me pose pas la question de savoir s'il y a une création, ça Dieu me l'a dit. Donc j'y crois. Maintenant j'essaye de comprendre comment est-ce que mon intelligence pourrait essayer d'y entrer dans ce mystère. La première chose, c'est de voir que dans la lumière de Dieu, face à ce qu'est Dieu, tout m'apparaît comme ce que Dieu est de manière absolue. Il est, dit saint Thomas, l'ipsum esse subsistens, celui qui subsiste lui-même dans son être. C'est une manière théologique d'exprimer la parole de l'Exode, je suis celui qui suis, ou je suis celui qui sera, ou il y a plusieurs manières de le traduire. Toute réalité dans la lumière de Dieu qui est m'apparaît comme non pas limitée dans son être, mais comme n'existant pas de manière absolue comme Dieu, comme ayant un être qui est participé. Je ne suis pas l'être. C'est pour ça que je ne peux pas me contenter, pour me présenter, de dire « je suis ». On va vous répondre « et vous êtes qui ?» Alors que Moïse qui demande à Dieu « et qui tu es ?» il lui dit « je suis ». Et quand on demande à Jésus, quand Jésus demande « qui cherchez-vous ?» il dit « Jésus le Nazoréen », il dit « je suis ». Il ne dit pas « je le suis ». Il se présente comme Jésus, comme « je suis ». Ça veut dire que sa personne, vous voyez, je dirais dans son être, il est « je suis ». Ce que je ne peux pas dire de moi-même. Moi, je suis un homme et on est beaucoup. D'accord. Et c'est ça qui est très beau, si vous voulez, dans la lumière de la foi. Et c'est ça, si on est attentif au fait que dans la foi, on a une conscience d'être créature. C'est ça dont on a conscience. C'est que devant lui, c'est clair qu'on n'est pas tout. C'est clair qu'on n'est pas grand-chose et que malgré tout, on est. Ensuite, quand je comprends comment Dieu est, de manière absolue, et que je dirais, c'est sa propriété, vous voyez, d'être absolument. Vous voyez, c'est très beau parce que moi, je comprends pourquoi c'est important de faire de la philosophie, de réfléchir sur l'être. Parce que c'est le seul chemin que j'ai pour découvrir ce qu'il est dans ce qu'il est. Vous voyez, en théologie, on dira au fond, toute existence, toute réalité existante est un reflet de ce qu'est Dieu dans son mystère. C'est pour ça que la théologie m'encourage encore plus à être présent à l'existence des choses. Parce que c'est là qu'elle est l'icône de Dieu. Elle est plus sous un certain aspect, elle est plus là que dans l'icône de Roublev. Parce que l'icône de Roublev, elle est symbolique. L'existence, elle n'est pas symbolique. Et l'existence, elle me conduit à Dieu, pas de manière symbolique, de manière immédiate. Alors que le symbole me conduit à Dieu indirectement. des fois, si par ailleurs j'y accède par l'existence, me conduit du côté de l'amour plus profondément. Mais du côté de l'intelligence, c'est l'être qui me conduit à Dieu, c'est pas le symbole. Le symbole, il me prépare. Et une fois que je rejoins Dieu dans son existence, il m'aide à aller plus loin. Mais vous voyez, je dirais, le symbole, il est avant, il est après. Et donc, découvrant, si vous voulez, plus que cette propriété de Dieu, cette existence absolue de Dieu, et cette existence participée qui est celle de toute créature, nécessairement, il est source de ce que je suis. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est ce qu'il y a de propre en lui d'être. Et je ne peux le recevoir que de lui. Vous voyez, c'est un peu... C'est la première difficulté hein, du regard sur le... qui est au fond de comprendre comment, me découvrant devant Dieu, je me découvre existant, et ça, je ne peux pas le diminuer. Vous voyez, l'essai participer, ce n'est pas un essai diminué. Ce n'est pas une demi-portion. Ce n'est pas ça du tout que ça veut dire, un essai participer. Un essai participer, ce n'est pas une demi-portion, mais c'est que j'existe réellement. Et mon existence, elle est irréductible. Elle est singulière et elle est admirable. Mais je n'existe pas absolument. Ça ne me limite pas d'ailleurs. Ce n'est pas une limite d'être. Et découvrant que Dieu, lui, existe absolument, ça devient une évidence que je suis par lui. C'est ça qui n'est pas commode, mais c'est pas de l'ordre de la logique. Je dirais, c'est que me regardant dans la transparence de Dieu, je ne peux me découvrir que causé par lui. C'est ça qui est très beau chez saint Thomas, c'est que saint Thomas, dans sa foi, se contemple dans la lumière de Dieu. Vous voyez, il se contemple par transparence. Et dans la lumière de Dieu, il se découvre causé par lui. Alors, ce qui n'est pas commode, c'est que ce n'est pas de l'ordre du raisonnement logique. C'est de l'ordre de la contemplation. C'est pour ça que je ne prouve pas que je suis créé. C'est improuvable. Pas plus que l'essence de Dieu. D'ailleurs, je ne prouve rien. La seule chose, c'est que je peux indiquer le chemin par lequel j'en découvre l'évidence. Oui, alors ce qui est important, c'est que ça n'est que le dévoilement théologique de ce que je vis dans l'adoration, même si je ne le sais pas. Même un enfant qui adore. Vous voyez, c'est la mise au jour de ce que je vis dans l'adoration. La théologie, elle n'est que le désenveloppement de ce que je reçois dans la foi. Alors ça, c'est le premier élément de la réflexion de saint Thomas, qui est le plus difficile parce que c'est le plus contemplatif et le moins raisonnable. Enfin, vous voyez, comment vous dire ça ? Ça implique un raisonnement, ça implique une intelligence très rigoureuse. Mais ça implique surtout, dans la foi, encore une fois, d'émigrer en Dieu. Et de me regarder dans la lumière de Dieu. Ensuite, il y a un deuxième moment de la réflexion de saint Thomas. Alors c'est après ça de dire que, du coup, tout est créé par Dieu, y compris la matière. Tout ce qui existe est créé par Dieu. Et puis il précise comment Dieu ne me crée pas à partir d'un autre modèle que lui-même. Ça c'est magnifique. C'est ce qui nous est révélé dans la Genèse. Hein. On est créé à son image et ressemblance. Et donc ça aura pour conséquence que dans mon être, je suis image de Dieu. Dans ce que je suis, pas simplement parce que je suis bon et miséricordieux, ou bien puissant. Mais dans mon être, je suis image de Dieu. Si vous voulez, l'icône la plus immédiate, encore une fois, de Dieu, c'est l'être de la personne. Elle est pauvre et elle est fatigante à regarder. Mais j'en ai pas d'autre. Alors ensuite, dans un deuxième temps, saint Thomas va purifier. Donc une fois qu'il a regardé ça, le fait que je suis causé par Dieu, il essaye de réfléchir comment. Parce que spontanément d'être causé par Dieu, je me le représente comme un art, comme un artiste qui fait quelque chose. D'accord ? Je me dis voilà, il n'y avait rien et puis Dieu m'a fait. Il m'a fait. Il nous a fait. Mais qu'est-ce que c'est le faire là de Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Précisément, le but c'est de montrer qu'il ne fait rien. Il est source de ce que je suis sans rien faire. Il n'y a pas d'art en Dieu. Au sens humain. Il y a une œuvre. Mais Dieu ne fait pas quelque chose comme un artiste. Cette œuvre, cette création, elle a, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de devenir. Il n'y a pas de matière préexistante. Dieu est cause de manière immédiate de tout ce que je suis. Alors vous allez me dire, il n'est pas cause de mon bagage génétique parce que c'est mes parents. Mais je ne regarde pas le devenir, hein, je regarde ce que je suis maintenant. Hein? En arrière. C'est normal quand même. On n'a pas décroché, on n'a pas accroché. Mais... Ce que je dis, c'est que dans un deuxième temps, saint Thomas essaye de purifier l'imagination que j'ai de la création. Toute création, je me la représente imaginativement sous la forme de l'artiste. Sous la forme d'un certain devenir. C'est que Dieu a fait quelque chose. C'est l'image d'ailleurs qui est présente dans la Genèse. Et saint Thomas dit, ça c'est très bien comme une image, mais la réalité, elle n'est pas ça. La réalité de la création, on va le revoir, c'est que en Dieu, l'acte de création, c'est Dieu lui-même. Il y a une identité absolue entre Dieu, son acte et son acte créateur. Dieu n'était pas en train de se promener dans son jardin et puis il a décidé de faire quelque chose. Vous voyez, quand il est dit dans la Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça c'est une image. Mais Dieu n'a pas pris une décision après avoir réfléchi mûrement en son fort intérieur. Et après avoir fait conseil de ses voisins. Non, vous voyez, c'est pas comme parce que la décision de Dieu. Nous, on s'imagine, parce que c'est pour purifier l'imaginaire un peu tout ça. Nous, on s'imagine Dieu dans son éternité. Au bout d'un certain temps, il a décidé voilà, maintenant je fais quelque chose. Et alors, il a décidé. Alors, il a fait quelque chose, il a fait apparaître quelque chose. Et puis, après ça, ça dure, et alors Dieu nous accompagne dans notre devenir. Puis, à un moment, ça va, ou bien ça va se rejoindre, ou bien on verra. Ben, l'éternité de Dieu, c'est pas un machin comme ça. Si vous voulez vous représenter l'éternité de Dieu, vous vous la représentez comme ça. L'éternité de Dieu, c'est un éternellement présent. Et donc Dieu, il n'a pas commencé à faire quelque chose à un moment. Il n'a pas commencé à me penser, puis après à me faire. Et il ne m'a pas fait en commençant par quelque chose et en finissant par un autre bout. Oui, je sais bien, il y a 7 jours, il y a la glaise, il y a tout ce qu'on voudra, toutes les métaphores. C'est pour ça que le théologien il intervient en disant, c'est très bien la parole de Dieu. Mais... renoncez pas à votre intelligence à cause de la parole de Dieu. Parce que une fois que j'ai accepté de purifier mon imaginaire par rapport à la création, le symbolisme de la Genèse m'apparaît avec une richesse infiniment plus grande. Parce que je m'appuie pas sur le symbole pour croire. Je m'appuie sur la lumière de Dieu pour croire. Et c'est dans la lumière de Dieu que j'éclaire le symbole qu'il me donne. Parce qu'il m'oblige à m'appuyer sur la lumière de Dieu. C'est précisément de ne pas m'imaginer l'acte créateur. Vous voyez, le Big Bang, par exemple, ça sera le Big Bang, c'est typique, c'est le nouveau mythe de l'imagination occidentale. C'est-à-dire que ça permet de se représenter la création autrement que dans la Genèse. C'est pas mieux. Au point de vue théologique, je veux dire, au point de vue théologique. Vous m'imaginez qu'alors il a commencé par faire une espèce de petite boule très concentrée, puis après ça s'est démultiplié, il y a eu un grand feu d'artifice, et puis ça fait des petites choses, puis ça a grossi tout ce que vous voudrez. C'est très joli. Mais ça ne me renseigne pas très bien pour savoir tout de suite tout de suite, qu'est-ce que c'est que l'acte créateur de Dieu sur moi maintenant? Parce que ça veut dire aussi qu'il n'a pas commencé à un moment, puis qu'après ça, il laisse durer, vous voyez. Il ne m'a pas créé, ça veut dire qu'il m'a fait, puis après ça, il continue de voir comment ça marche. Si l'acte créateur coïncide avec Dieu, il est effectivement actuellement présent. Et du côté de Dieu, je suis présent à lui de toute éternité. Mais c'est pas simple, hein, parce que c'est pour ça que les mythologies grecques, elles étaient pas bêtes. De se concevoir des intermédiaires, vous voyez, ça permet de laisser un flou. Voilà, dire au fond, il a pas vraiment fait ça lui-même, il a confié ça à d'autres, qui sont pas vraiment dans l'éternité, mais qui sont pas tout à fait dans le temps non plus. Voyez, on verra, mais comment est-ce que... C'est très étonnant, quand on prend le parallélisme entre les cosmogonies grecques et précisément les théories de cosmogénèse scientifique. Et déjà, quelqu'un comme Hubert Reeves, il le reconnaît tout à fait. Qu'au fond, c'est tout à fait le même type de je sais pas comment vous dire, de compensation imaginative. Parce que c'est pas commode de découvrir qu'est-ce que c'est Dieu créateur. Que c'est pas un vieux vieillard chenu avec une grande barbe qui nous a créé le premier jour. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est actuellement pour moi? Alors on verra que s'il n'y a aucune... Si ça coïncide avec Dieu, on verra aussi que ça, et s'il ne travaille pas avec un mouvement et un devenir, ça veut dire qu'il n'y a aucun intermédiaire. Ça veut dire que Dieu est créateur de tout son être. Ce n'est pas une fonction de Dieu d'être créateur. Son être est créateur. Et son être est créateur de mon être sans aucun intermédiaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune distance ontologique entre moi et Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre mon être et celui de Dieu en tant qu'il est source de ce que je suis. Et ça, c'est pas rien pour l'adoration. C'est assez reposant. Pas pour l'intelligence, mais au point beaucoup plus profondément. C'est là qu'il est le repos de l'adoration. Vous voyez, que tout mon être soit créé par tout l'être de Dieu de manière immédiate, à ce moment-là, j'entrevois ce que c'est que la paternité divine. On essaiera de revenir. Vous poserez des questions, hein, donc là-dessus, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien.
Moi, je vais poser une question. Ça n'a rien à faire peut-être à la question que ça t'avait dit.
Oui.
Voilà, on est dans un monde matérialiste et un monde qui n'est géré que par la science et par la connaissance élaborée d'un raisonnement.
Oui, oui, oui.
Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors qu'on a une connaissance intuitive de Dieu et que pour nous, ben, on a la grâce de connaître,
oui,
de savoir qu'il est,
etc. Oui.
Comment est-ce qu'on peut expliquer à des gens qui, eux, n'ont pas cette connaissance intuitive de Dieu, que
oui,
Dieu est là?
Ben, ce qu'il faut...
Parce qu'eux, ils ne renvoient qu'à la science.
Je comprends. Mais je crois qu'il faut commencer par le comprendre mieux soi-même. Non, mais c'est, sérieusement, et on verra ce qu'il faut essayer de faire. Parce que plus j'en ai l'évidence, plus j'en ai l'évidence, et plus ce que je communique est réel. Et où je le communique plus simplement par amour, mais où je témoigne de quelque chose de réel. Pas simplement parce que je...